Nous allons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 5. Matthieu 5, à partir du verset 13. Il est écrit ceci. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous prenons aussi Ésaïe au chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Le dernier verset. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ésaïe 8, 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Ma prédication, c'est que la lumière chasse les ténèbres. Nous sommes confrontés dans ce monde à toutes sortes de difficultés, d'épreuves. Et comme c'est écrit là, il y a des angoisses. Et parfois, le diable nous pousse à nous concentrer sur nous ou sur les angoisses ou les difficultés en question. Il nous montre les ténèbres, comment elles sont immenses et dangereuses. Et le but de tout ça, c'est enlever le combustible qu'il y a en nous. Parce que là où il y a une lumière, il y a un combustible. La lumière est produite par quelque chose. Elle n'est pas produite, elle ne vient pas toute seule. Elle est produite par quelque chose. Et le diable fera en sorte que le combustible qu'il y a en toi, c'est-à-dire la foi, la prière, la repentance, la parole de Dieu, puisse être étouffée pour que tu ne produises plus de lumière. Nous sommes semblables à un enfant de 12 ans qui a un revolver, qui sait s'en servir et qui a en face de lui un catcheur de 2 mètres 10 avec des muscles impressionnants et qui a peur du catcheur. Voilà ce que les chrétiens sont en général. C'est des gens qui ont une grande puissance dans leurs mains, mais qui ont peur lorsqu'ils sont en face des angoisses et des difficultés, des tribulations, parce qu'ils sous-estiment l'arme qu'ils ont. Parce qu'aussi, l'adversaire qui est en face semble sous-estimer l'arme qu'ils ont. Et le Seigneur nous a donné un conseil dans Luc 18. Il a dit, il faut continuer toujours à prier. Parce que nous sommes la lumière, comme c'est écrit dans Matthieu 5. La lumière finit par chasser les ténèbres. Et donc l'erreur, c'est de se laisser impressionner et étouffer la lumière à cause des apparences extérieures. Ma prédication est un encouragement à ce que tu continues à briller. Tu continues à briller, même pour des choses que tu as, qui te donnent l'impression de ne pas bouger. faut continuer à prier. Faut continuer à exister dans la lumière. Il ne faut pas laisser la lumière qui est en toi être étouffée. Et comment ça peut être étouffé si tu n'as plus la foi? Comment ça peut être étouffé si tu n'as plus l'amour? Comment ça peut être étouffé si tu n'as plus une vie de prière? Comment cette lumière peut être étouffée si tu ne sais pas te repentir? Tu gardes les péchés, tu les caches, et bien tu vis dans les ténèbres et ta lumière que le Seigneur t'a donnée ne peut pas fonctionner. Et l'objectif de l'ennemi, c'est de te décourager, de dire que les ténèbres sont trop épaisses, tu ne pourras pas les éclairer. Bien-aimé, je parle de ceci parce que j'ai fait une expérience, ou bien j'ai plutôt observé que là où il y avait les gens de vérité, petit à petit, les ténèbres se dissipent. Autrefois, nous avons prêché, j'ai prêché le fait qu'il y a le mal dans le monde entier juste sous le pouvoir du diable, et le Seigneur permet cela, et que ça sera, c'est comme ça. Mais bien aimé, ce n'est pas faux, mais il y a un détail très important. Le mal ne peut prospérer que là où la lumière est petite ou absente. Là où la lumière agit, le mal ne va pas prospérer. Même si on dit que le monde entier gît sous le pouvoir du diable, mais quand Jésus était là, autour de Jésus, il n'y avait pas le pouvoir du diable. Donc quand il passait, un démon criait, « Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Allez, tu sors !» Donc là où Jésus était, la lumière brillait. Maintenant, c'est vrai que Dieu ne peut pas imposer sa lumière chez les humains. Les humains ont un choix à faire parce que quelqu'un me dit, mais Judas était là. Oui, c'est là la différence. C'est que les humains ont un choix à faire. Recevoir cette lumière ou l'accepter. Nous lisons donc dans Jean 3. Le Seigneur a trouvé la solution pour vaincre les ténèbres, c'est produire la lumière. Parce que notre désir caché, c'est toujours que Dieu enlève les ténèbres. Dieu ne peut pas. Dieu, les ténèbres, ça ne s'enlève pas. Ça se chasse par la lumière. Donc Dieu veut se servir de toi pour produire la lumière qui va chasser les ténèbres. Mais toi, tu es en train de prier, Seigneur, enlève les ténèbres. Non, le Seigneur dit, c'est toi, dans la lumière qui est en toi qui va chasser les ténèbres. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir un appareil qui enlève le noir. Tu vas dans ta chambre avec ton appareil qui enlève le noir. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu fais pour enlever l'obscurité dans ta chambre? Tu allumes. Dès que tu as allumé la lumière, l'obscurité n'est plus. Donc la solution pour vaincre les ténèbres, ce n'est pas enlever les ténèbres, parce que les ténèbres, c'est déjà les ténèbres. Ça ne s'enlève pas. C'est comme ça. On chasse les ténèbres par la lumière. Jean 3, il est écrit ceci. Je commence au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, car c'est parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus dit, il est lui la lumière. Et cette lumière vient dans le monde et le monde refuse. Et le Seigneur ne peut pas s'imposer sur l'homme. Il ne peut que briller. Et nous avons tous le choix d'accepter cette exposition ou de refuser. C'est ce qu'on appelle la repentance. Tu as le choix de t'ouvrir devant le Seigneur pour que le Seigneur éclaire tes défauts et que tu te repentes et que tu changes de vie. Ou le choix de dire, je refuse la lumière, je continue sur mon chemin. Le Seigneur nous a donné à toute l'humanité un cadeau infini, un cadeau immense. C'est le cadeau de la repentance, du pardon. Le cadeau qui t'amène à dire, Seigneur, je suis sale, je suis un homme pécheur. Souvenons-nous de ce péager-là qui était en train de prier à côté du pharisien, qui était en train de prier, Seigneur, je ne suis pas digne de me poster ici en train de te prier. Fais-moi grâce, aie pitié de moi. C'est le cadeau que Dieu nous a donné à tous, devant la lumière, de dire, Seigneur, je suis un homme mauvais pécheur. Fais-moi grâce, aie pitié de moi. Et c'est ce qu'Ésaïe a ressenti quand il a vu Dieu, il a vu la gloire de Dieu plutôt. Il a dit, Seigneur, je suis un homme pécheur et mes lèvres sont des lèvres de péché. Et il a été purifié par un morceau de braise. Et nous nous souvenons, Pierre, lorsque Jésus-Christ a multiplié, même pas multiplié, Jésus-Christ a créé le poisson pour que pêche, Pierre puisse faire une bonne pêche. Quand Pierre a vu ça, il a dit, Seigneur, retire-toi de moi. Retire-toi de moi parce que moi je suis un homme pécheur. Pourquoi tu es si près de moi? C'est ça l'attitude que Dieu attend de tout homme. Que nous soyons réceptifs à la lumière pour dire, Seigneur, ta lumière met mes fautes en évidence et je veux que tu me laves par le sang de Jésus-Christ. Jésus dit, pourquoi les gens seront condamnés? Parce qu'ils auraient refusé la lumière. Maintenant, quand toi, tu as reçu la lumière qui est Jésus, c'est Jésus qui va faire la différence en toi en tant que lumière. Quand le Seigneur, souvenez-vous dans Genèse, qu'est-ce qui est dit? Au commencement, quand Dieu a fait les cieux et la terre, il y avait des ténèbres. Mais quand Dieu a dit que la lumière soit, il n'y a plus que les ténèbres. Les ténèbres ont été chassées et la lumière a pris place. Mais c'était au même endroit. Et le Seigneur a séparé la lumière des ténèbres. Maintenant, là où la lumière vient, les ténèbres s'enfuient. Et donc, le Seigneur en nous, nous devenons nous-mêmes aussi la lumière du monde. Et nous aussi, nous allons nous présenter aux gens. Et autour de nous, il y aura des gens qui accepteront la lumière ou qui la rejetteront. Mais le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens, au lieu de se préoccuper de la lumière, ils se préoccupent des ténèbres. Ils connaissent toutes les sortes de démons qui existent. Ils connaissent toutes les sortes de satanistes qui existent. Ils se préoccupent plus de noms de maladies. Ils se préoccupent plus des défauts des humains. Ils se préoccupent plus des difficultés annoncées aux infos. Crise ceci, crise cela. Ils se préoccupent plus de tout ce qui est impressionnant et négatif manifesté par le monde, tentant de les étouffer. Et ce faisant, leur foi est atteinte. La parole de Dieu en eux n'est plus la vérité. C'est une parole approximative. Ils ne prient plus comme un enfant de Dieu doit prier. Je ne parle pas de la quantité, je parle de la vraie prière qui consiste à croire vraiment que Dieu est ton Père et qu'il s'occupe de toi. Donc quand tu fais la prière, tu considères que tu parles à ton Père. Tu considères que tu parles à celui qui t'aime et à celui qui est tout puissant. Et ces gens-là, d'ailleurs, finissent par dévoyer la parole de Dieu et commencer à relativiser certains péchés en disant, bon, je ne suis pas le plus grand des pécheurs, il y en a d'autres. Et petit à petit, leur lumière s'éteint. Le but du diable, c'est enlever le combustible. Souvenons-nous des vierges folles et des vierges sages. Toutes avaient la lumière, mais les unes ont épuisé le combustible. Et quand le combustible est épuisé, il n'y a plus de lumière. Et le combustible pour nous les chrétiens, c'est la foi, c'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est l'amour. Quand il n'y a pas ce combustible-là, souvenons-nous de la phrase de Paul, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Souvenons-nous de ce que David dit, ta parole est une lumière sur mon sentier. Quand nous perdons ces choses-là, le combustible s'étouffe. Et le diable va tout faire pour qu'on perde ces choses. Il va diriger nos yeux vers ce qu'on nous fait de mal. Donc, il va attirer notre attention sur ce que les gens nous font de négatif pour qu'on n'aime plus les gens, pour qu'on les haïsse, pour qu'on les diminue. Il va attirer notre attention sur les fautes des autres pour qu'on se croie fort. Et l'amour s'étouffe, l'amour meurt, et quand l'amour meurt, la lumière aussi s'en va. Le diable va faire en sorte qu'on ait l'impression que les ténèbres sont trop épaisses pour nous, les projets de Dieu sont inaccomplissables. Et le but, c'est quoi? Tuer la foi. Et quand la foi est tuée, même quand tu lis la parole, ça n'a plus d'effet. Le diable va attirer ton attention sur les échecs du passé pour dire, mais tu étais déjà chrétien, mais tu avais échoué dans telle chose. Regarde, telle église a échoué dans telle autre affaire. Regarde, tel chrétien, même pasteur, il a échoué aussi. Donc, et finalement, tu n'as plus foi. Parce que tes yeux sont attirés vers ce qui est négatif au lieu que tes yeux se concentrent sur la puissance de la lumière. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre solution. La solution, ce n'est pas comprendre comment le diable fonctionne, comment il est fort. La solution, c'est briller et toujours briller. C'est ça la solution. Quand tu arrêtes de briller, que tu connaisses le fonctionnement du diable ou pas, tu seras atteint. Tu seras affaibli. La puissance, la victoire vient du fait d'être lumière. Plus tu es lumière, plus les ténèbres seront chassées. C'est ça la vérité. Et Jésus dit dans Jean 8, 12 que c'est lui la lumière du monde. Et quand il vient en nous, nous aussi, nous devenons la lumière du monde. Et nous lisons aussi Philippiens 2. Paul en parle aussi. C'est des gens qui avaient compris ce principe de lumière. Philippiens 2. Philippiens 2. Et puis au verset 14, qu'est-ce que Paul dit? Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Paul dit, il faut briller comme des flambeaux dans cette génération. Alors, qu'est-ce que Dieu fera pour qu'on brille? Il mettra des mauvais autour de nous. Pour qu'on brille par l'amour. Qu'est-ce que Dieu fera pour qu'on brille? Il mettra des crises, permettra des crises économiques autour de nous. Pour qu'on brille par la foi. Qu'est-ce que Dieu fera pour qu'on brille? Il permettra que la fausse monnaie, c'est-à-dire la fausse parole, semble réussir. Il y a des gens qui vont venir te présenter des méthodes qui réussissent. Et sous-entendu, la parole, ça traîne. Donc, il va permettre que tu vives des circonstances où les gens qui ont la fausse parole, c'est eux qui semblent réussir. Le but, c'est de voir vraiment si tu es attaché à la parole. Souvenons-nous de Deutéronome, hein, au chapitre, le passage où on parle, je crois, le chapitre 13, où on parle du faux prophète. Je crois que dans Deutéronome 13, on dit que si un prophète vient, il annonce des choses qui s'accomplissent. Après, il vous dit, allons adorer d'autres dieux. Il ne faut pas suivre. Donc, il y a des gens qui viendront, qui annonceront des choses, qui manifesteront une certaine puissance. Et après, ces gens vont dire, détournons-nous de la parole. Mais ils ne vont pas le dire comme ça. Mais ils vont le dire d'une manière indirecte. Et toi, parce que tu les as vus réussir, tu vas te détourner. Et Dieu a dit dans Deutéronome 13, j'ai permis ça afin de voir si vraiment vous êtes attaché à la parole de Dieu. Donc Dieu permettra tout ça parce qu'il veut te faire briller. Parce que Dieu est conscient que la victoire vient de la puissance de la lumière qui est en toi. La victoire ne vient pas par des méthodes. Juste ta présence qui brille va transformer ton environnement. Et nous avons un exemple de ce genre-là dans l'Ancien Testament, avec l'histoire de Gédéon. Le Seigneur a dit à Gédéon, vous allez dans le camp adverse, vous portez des cruches, avec des lumières dans les cruches. Quand vous entrez dans le camp adverse, vous cassez les cruches. Et vous sonnez la trompette. Et ce sera comme ça que vous allez gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont cassé les cruches, il y a eu la lumière qui a jailli, ils ont sonné la trompette. Pour l'Éternel et pour Gédéon. Et c'était la débandade dans le camp adverse. Alors, l'ennemi connaît ça. Alors, qu'est-ce que lui va faire? Il va tout faire pour que toi-même tu éteignes ta lumière. Parce que lui, il est incapable d'éteindre ta lumière. Ta lumière lui fait peur. C'est-à-dire, pendant que l'ennemi t'attaque, il t'attaque à reculons, comme les Égyptiens dans la guerre de 67, je crois. Ils combattaient contre les Juifs, donc ils avaient mis les voitures en direction de l'Égypte et combattaient en marche arrière. Donc, à reculons, l'ennemi attaque, mais toi, tu as l'impression qu'il avance, mais il n'avance pas, il attaque à reculons. Mais comme il paraît impressionnant, toi tu as peur, alors que tu as le revolver. C'est ça, alors que tu peux annuler les muscles en 20 secondes, ben, tu es impressionné par les muscles, toi tu as le revolver. Et l'ennemi va vouloir sous-estimer les revolvers que tu as par sa façon de faire. Et il ne faut pas suivre ça. Il va dire, mais oui, mais ta prière n'a pas marché. Ça fait un moment. Tout ce qu'il veut, que tu ne pries pas. Parce qu'à chaque fois que tu pries, ça marche tellement. Mais toi, tu ne t'en rends pas compte. Mais dans le monde spirituel, ça marche. Ça fait avancer les choses. La prière est parfois comme une construction. Quand on commence une construction, ça ne ressemble à rien du tout. On fait des tranchées, on fait des fossés, on fait des déblayages. Ça ressemble à rien. Même si ça va être un immeuble vitré. Mais au début, ça ressemble à rien du tout. L'ennemi va te dire, ça ressemble à rien ce que tu fais. Toi, tu connais l'objectif de Dieu. Tu sais que chaque brique, chaque moellon, chaque pierre est importante dans la construction. Commence. L'ennemi va vouloir t'empêcher même de commencer. En te disant que c'est infructueux, ça fait un moment que tu le fais, continue à faire. Une construction, ça prend son temps. Et le Seigneur te montrera sa puissance. Bien-aimé, autrefois, je me disais, ben oui, bon, nous vivons avec le mal. Oui, nous vivons au milieu d'un monde dirigé par ceux du mal, mais nous avons reçu l'autorité d'assainir notre environnement. Nous avons reçu cela. C'est écrit dans Proverbe 29. Nous lisons Proverbe 29. Au verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Quand les justes se multiplient, un pays, le peuple est dans la joie. Le pays devient agréable. Donc la prolifération des justes avec leur lumière fait que les ténèbres sont chassées et la lumière commence à dominer. Et l'intérêt du diable sera de t'empêcher de produire la lumière. C'est ça qu'il faut retenir. La lumière chasse les ténèbres. La lumière éloigne les ténèbres. Les ténèbres de ta famille peuvent être éloignées par la lumière qui est en toi. Mais il faut que tu gardes la flamme. Garde le flambeau allumé. Paul exhortait Timothée à ranimer la flamme qui était en lui. Parce que la flamme commençait à baisser. Ranime cette flamme. C'est toi qui es responsable de ranimer cette flamme. Dieu t'a déjà donné le feu. À toi d'entretenir ce feu-là avec son aide. Mais c'est un choix qui vient de toi. C'est toi qui dois choisir de garder la lumière ou pas. Souvenons-nous, c'est ce que le Seigneur a dit. Le jugement, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a nous-mêmes refusé la lumière. Donc on a un choix à faire d'accepter la lumière, que la lumière brille en nous. Pourquoi on a un choix à faire? Parce qu'il y a des conséquences. Quand la lumière brille en toi, il y a des conséquences. Les gens vont se fâcher autour de toi parce que tu les gênes. La lumière montre leurs défauts. La lumière fait qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans l'erreur. Et la lumière fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Il y aura la jalousie. Il y aura toutes sortes de blocages. Mais surtout, c'est les mauvais esprits, les démons, le diable qui va voir ses œuvres tout le temps détruites, qui ne sera pas à l'aise. Son objectif sera de faire que ta lumière s'éteigne. Mais pas par lui. Lui ne peut pas éteindre ta lumière. Et il peut que t'influencer toi-même à éteindre ta lumière. Parce qu'il n'a pas la capacité de toucher à ta lumière. Parce que ta lumière, ça vient de Dieu. Mais Dieu, lui, ne te force pas à garder cette lumière. Il voudrait que toi-même, tu apprécies l'importance de cette lumière et que tu choisisses de réclamer son aide pour garder cette lumière. Et dans ce schéma-là, eh ben, je nous exhorte aujourd'hui à choisir de garder la lumière. Le juste, lorsqu'il se multiplie, le peuple est dans la joie. Et toujours dans Proverbes au chapitre 11, c'est écrit au verset 10 et au verset 11. Proverbes 11, verset 10 et 11. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Mais cette ville-là, ça peut être la famille. Cette ville-là, ça peut être ton couple. Cette ville, ça peut être ta vie. Cette ville, ça peut être une vraie ville. La vraie ville où Dieu t'a établi, a établi ton église. Eh bien, Dieu dit, quand les justes se multiplient, cette ville-là va respirer la joie. La délinquance va s'éloigner. Le mensonge va s'éloigner. La ville va respirer. Beaucoup de gens ont expérimenté ça dans certaines villes où des chrétiens priaient sérieusement. La délinquance diminue statistiquement, clairement. Le chômage diminue. Parce que la présence des justes attire la grâce de Dieu. Nous avons l'exemple d'Abraham. Quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorre, à chaque fois, Abraham disait, mais s'il y a 50, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu dit, je ne détruis pas. Donc la présence des justes a son importance. C'est ça qui permet que la ville vive. On n'a pas dit l'action des justes, rien que leur présence. Quand ils se multiplient, forcément ils vont agir. Dieu te demande d'être un juste et de le laisser briller en toi. De ne pas couvrir la lumière. On ne met pas la lumière sous la table. Il faut vivre cette vie de juste librement. C'est ça l'équivalent de mettre la lumière sur la table. Quand tu vis librement ta vie de juste, vis librement ta vie de chrétien. Ne te cache pas. Tout ce qui vient dans ton cœur, du moment que tu ne l'as pas décidé, laisse cela s'exprimer. Un chant, une bénédiction que tu peux prononcer à quelqu'un. Donc je commence par donner ce qui est le combustible de la lumière. La liberté. J'ai commencé par la repentance. Ça, c'est primordial pour nous tous. S'il n'y a pas la repentance, ta lumière ne peut pas briller. Tu te repens à chaque fois qu'il y a un péché. Pour qu'il n'y ait pas d'obstruction à la lumière. Et ensuite, la liberté. Il faut que tu sois libre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Que personne ne t'empêche de vivre la vie de juste sous prétexte que c'est de l'exagération. Non. Dis ce que tu penses. Sauf quand le Saint-Esprit t'arrête. Mais que ce ne soit pas tes raisonnements qui t'arrêtent, ni les regards des autres. Tu dois foncer. Tu dois marcher tel que le Saint-Esprit te conduit, dans la liberté. C'est comme ça que cette lumière va se manifester. Lorsque tu dois dire non, tu dis non. Lorsque tu dois dire oui, tu dis oui. Les gens vont considérer que tu es méchant parce que tu as dit non. Ce n'est pas grave. Toi, tu dois être dans la vérité et dans la liberté. La liberté, c'est être prêt à dire ce que Dieu t'a demandé de dire, ce que tu ressens que tu dois dire. L'esclavage, c'est dire en fonction de ce que les hommes pensent. Être bloqué. Il faut vivre une vie de chrétien libre, où tu t'exprimes conformément à la parole de Dieu, sans contrainte. Conformément à ce que tu ressens comme étant le bon droit, sans contrainte. C'est très important. Beaucoup de chrétiens vivent en fonction de la famille, en fonction de ce que les amis vont dire, en fonction de ce que les autres chrétiens vont dire. Et ils mènent en quelque sorte une double vie. Et cette vie-là fait qu'ils n'ont pas une lumière blanche. C'est une lumière floue. Elle ne brille pas. La vraie lumière, c'est une vie de liberté où tu t'exprimes tel que ça vient et que tel que c'est correct. Bien sûr, en acceptant les conséquences qui adviendront, des critiques, des mauvaises conceptions de toi. Paul dit dans 2 Corinthiens 6, nous avons appris à marcher dans la bonne comme dans la mauvaise réputation. Soyons prêts à accepter d'avoir une mauvaise réputation parce qu'on a été bon, on a été droit, on a été pur, on a été amour. Cette liberté-là fait qu'on peut avoir une mauvaise réputation à cause de notre justice. La liberté, c'est important. Beaucoup de gens ont étouffé la lumière de Dieu par, comme j'ai dit en premier lieu, par des péchés non confessés, des péchés traînés à longueur de temps. Et après, tu vas dire, on a subi une attaque. Non, c'est toi-même qui as laissé la lumière en toi mourir. Ce faisant, le diable a beaucoup plus de courage pour avancer. Il est écrit dans 1 Pierre 5:8, qu'est-ce qui est écrit ? Le diable rôde comme un lion rugissant autour de tout chrétien. Mais là où il y a le feu, il ne peut pas approcher. Il tourne. Dès qu'il voit le feu baisser, eh bien, il attaque. Et nous, on est là à se concentrer, mais il y a telle attaque. C'est venu par les airs. Non, c'est venu par la mer. C'est venu par un tel. Non, concentre-toi sur la lumière qui est en toi. S'il y a la lumière, quelles que soient les attaques, ça n'avancera même pas. Le diable même nous tente en fonction déjà de notre convoitise. Quand il sent qu'il y a une convoitise, c'est là qu'il avance fort avec la tentation. Mais quand il sent qu'il n'y a pas de convoitise, il se reste à distance. C'est ça la réalité. Que la lumière qui est en nous continue à briller. Ne laissons pas, n'ouvrons pas des portes. Surtout parfois, il y en a qui ouvrent des portes par des péchés collectifs. À 3, à 5, vous commettez un péché, bien aimé, c'est plus grave qu'un seul homme commet le péché. Hein. C'est plus grave quand on le fait à plusieurs. Parce que ça fait comme un groupe qui s'oppose à Dieu. Comme une armée qui s'oppose à Dieu. C'est pourquoi moi je dis souvent aux gens qui sont mariés, quand tu as une femme qui te dit tout le temps oui, c'est dangereux. Quand tu as un homme qui te dit tout le temps oui, c'est dangereux parce que quand tu vas voler, il va dire encore oui. Quand tu vas escroquer, donc c'est la complicité, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est la vérité. Donc, quand tu as une femme qui te dit non, c'est une grande bénédiction. Parce que le jour où tu voudras faire une bêtise, elle te dira non. Quand tu as un homme qui peut te dire non, c'est une bénédiction. Le jour où tu devras faire une bêtise, il te dira non. Parce que le péché fait ensemble, ça rend encore le péché plus grave. Ça devient comme un combat d'ensemble contre Dieu. Il se sent en face d'une armée maintenant. Alors que ça peut être le péché personnel, ça peut être conçu comme une sorte de faiblesse. Mais là, ce n'est plus une sorte de faiblesse, c'est une organisation carrément autour du péché. Et ça devient dangereux. Soyons libres de dire non. Soyons libres de dire oui. Même si les gens vont nous critiquer. Même si ça va mal se passer. Soyons libres. Cette vie de liberté-là, c'est ce qui va produire la lumière. Les gens, bien sûr, vont se moquer de nous dans un premier temps en disant ben, il a échoué. Mais plus tard, ils se rendront compte que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Et eux, ils avaient bâti en vain. Et ce que toi, tu as bâti a été réellement sur le roc. Comment entretenir cette lumière encore après la repentance, liberté ? C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole. Il ne faut pas s'en servir comme un moyen pour critiquer les autres ou pour voir les défauts des autres. Il faut s'en servir comme un moyen, comme tout ce qu'on a dit sur elle dans cette même parole. La parole dit qu'elle est la lumière. Elle va t'éclairer. Éclairer ton avenir, lumière sur ton sentier. Éclairer tes pas, lumière à tes pieds. La parole est comme une nourriture pour ton âme. Ce n'est pas l'argent qui a la solution, c'est la parole de Dieu. Josué 1:8 dit, médite cette parole jour et nuit, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Beaucoup font le choix du compromis parce qu'ils pensent réussir plus vite en sortant de la parole de Dieu. Restons dans la parole, bien-aimés. La parole, c'est la vie. Et cette parole va avec la foi. Tu ne peux pas t'attacher à la parole si tu ne mets pas ta foi en ta parole, à la parole. Il faut avoir la foi que ce que Dieu dit, c'est ce qui va s'accomplir. C'est comme ça qu'on entretient le combustible. Les gens vont dire, mais tu n'avances pas. Mais dis-leur, je brille. Tant que je brille, cela suffit. La lumière fuira et les ténèbres fuiront. Il faut briller. Dieu n'a pas dit avance, non. Dieu dit brille. Il a dit à Gédéon, soyez là, vous cassez la cruche, vous laissez briller et vous sonnez la trompette. Brillez par la foi. Une foi absolue. Sois prêt, bien-aimé, à être humilié terriblement, mais garde ta foi. Humilié parce que les gens diront, mais ça ne marche pas ce que tu fais. Mais toi, tu sais que ça va marcher parce que c'est Dieu qui a promis dans sa parole. Sois prêt, bien-aimé. Comme un enfant, la foi d'un enfant qui croit que Dieu peut tout lui donner, que ses parents peuvent tout lui donner, c'est cette foi que nous devons avoir. Devant un méchant, croire qu'il peut se convertir, c'est cette foi qu'il faut avoir. Devant quelqu'un de malade, croire qu'il peut être guéri, c'est cette foi que nous devons avoir. Devant un pays, dans un pays difficile, où on refuse le christianisme, où on tue les chrétiens, mais toi, tu crois que Dieu changera le pays-là. Dieu a besoin de ces foi-là, de ces hommes de foi, pour briller. Parce que Dieu a choisi d'habiter en l'homme, dans le chrétien, afin de continuer à travailler. Et quand il y a des hommes et des femmes de foi, Dieu continue à briller et à sauver, à travailler. Lorsqu'il n'y en a plus, l'action de Dieu s'arrête. Et il est obligé de faire d'abord une action, de produire des justes. Et quand il les a produits, il recommence à briller en eux pour ce pays. Pour le pays, la ville, la famille. Le Seigneur a besoin de toi pour briller, afin que beaucoup soient sauvés. Ne compte pas sur tes efforts. Aie foi dans le Seigneur. Un autre élément bien-aimé, c'est l'amour. On ne peut pas briller si ce n'est pas l'amour qui est notre motivation. Nous devons aimer tous les hommes. Même celui que nous allons reprendre, même celui que nous allons redresser, nous devons faire tout cela avec amour. L'amour, c'est la vie. La colère, la méchanceté tuent, mais l'amour donne la vie. Et il est écrit dans le livre dans l'épître de Jean, l'amour parfait bannit la crainte. Quand tu es dans l'amour parfait, tu n'as pas peur de quand dira-t-on, parce que tu es motivé par l'amour. Ton cœur ne te reproche rien. Mais étant motivé par l'amour, tu peux faire la volonté de Dieu pleinement, sans honte, sans complication, sans rechercher l'approbation des humains. Tu es motivé par l'amour. Bien-aimé, imaginez Jésus-Christ à la croix. Mais combien de gens n'a-t-il pas déçu? Il a déçu le peuple. Les gens comptaient sur lui. Il a déçu sa famille. On croyait qu'il était un géant, mais comment il se retrouve à la croix? Il a déçu les apôtres. Il a déçu combien de gens, Jésus, quand il se retrouve à la croix? Beaucoup. Non seulement qu'il a déçu, il a meurtri des gens. Sa mère, c'était comme un poignard qu'on lui mettait dans ses entrailles. Mais Jésus savait qu'il faisait tout ça par amour. Tant que tu fais ça par amour, tu es en paix, tu es bien. Tu sais que c'est pour leur intérêt que tu fais ça. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas, ils comprendront plus tard. C'est ça qui est beau, l'amour. L'amour veut construire, sauver. Même si ça passe par la souffrance. Et c'est pourquoi quelqu'un qui est rempli d'amour, en général, et toujours d'ailleurs, parce que c'est écrit, l'amour se réjouit de la vérité, il sera aussi dans la vérité. On ne peut pas être dans la vérité sans amour, on ne peut pas être dans l'amour sans la vérité. Ça va ensemble. Parce que l'amour cherche l'intérêt profond, des autres. L'amour n'est pas superficiel, cherchant à plaire aux autres. L'amour cherche l'intérêt véritable des autres. C'est ça l'amour. Même si on va s'attirer les foudres de ces personnes-là. Nous voyons ça dans l'éducation des enfants. Même si on va s'attirer leur colère, si tu aimes vraiment tes enfants, tu vas préférer attirer leur colère, mais préparer leur avenir. Parce qu'un jour, toi, tu mourras, mais ces enfants-là auront leur avenir entre leurs mains. Il ne faut pas qu'ils pleurent. Ma mère, mon père, m'a laissé tomber, il ne m'a pas éduqué comme il fallait. Le vrai amour, ce n'est pas considérer un enfant comme une sorte de musée ou bien de, comment dire, de vitrine à montrer, un jouet. Les enfants, c'est ta chair et tu dois prévoir leur avenir. Et ça, ça demande des sacrifices d'amour où tu vas accepter de vivre des mauvais moments. Tu reviens du travail, tu entres encore en conflit avec les enfants à cause du fait que tu les aimes et tu veux un bon avenir pour eux. Tu étais fatigué du travail, mais tu te fatigues encore à la maison parce que tu préfères mourir, tu préfères être fatigué, mais faire des choix d'amour, d'avenir pour tes enfants. L'amour, c'est cela, bien-aimé. Et quand tu es dans cette attitude-là, tu es bien. Même si tu es rejeté, tu sais qu'un jour, ils comprendront que tu le faisais pour leur bien. C'est important d'aimer vraiment profondément les gens. Quand on aime profondément les gens, on est prêt à être rejeté aussi par eux. Mais quand on n'aime pas profondément les gens, on ne supporte pas d'être rejeté. Là, ça ne devient plus de l'amour, c'est de la complicité. Et ce n'est pas bon. Et pour finir, bien-aimé, l'espérance. Paul nous dit que l'espérance, c'est quoi? C'est l'attente des choses à venir. Si tu veux vraiment être un chrétien qui brille, tu dois être un chrétien qui attend l'enlèvement du Seigneur. Tu dois être un chrétien qui attend le ciel. Le chrétien qui attend la terre ne brillera pas. Sa lumière finira par s'éteindre. Le chrétien qui attend le ciel sera toujours éveillé. On se souvient des vierges sages et des vierges folles. Les vierges qui étaient sûres que le mari passera, ces vierges-là attendaient avec de l'huile en réserve. Mais les vierges qui étaient dans leur qui jouaient au loto, elles n'attendaient pas. Elles se concentraient sur leur sommeil, sur leur corps. Mais celles qui étaient focalisées sur les noces, elles avaient la lampe allumée. Bien-aimée. Un chrétien réveillé sera toujours branché au ciel. Mais vous pouvez avoir des serviteurs de Dieu, des gens qui parlent tout le temps de Jésus, mais qui sont terrestres. Ces gens-là se feront avoir par l'argent. Ils se feront avoir par le nombre. Ils se feront avoir par la politique, par le succès, parce que c'est des gens qui sont terrestres. Et leur lumière va s'éteindre toute seule et le diable va les dévorer à la fin. C'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, Pierre le dit. Il dit que ces faux docteurs-là, ils sont déjà rongés par une maladie, par la flétrissure. Il y a déjà ça en eux. Ils sont déjà pris parce qu'ils sont terrestres. Mais nous, nous devons marcher comme des voyageurs sur la terre, des pèlerins. Nous ne devons pas chercher à construire des châteaux en Espagne, mais nous devons chercher à construire des âmes pour aller les amener au ciel. C'est ça l'appel que Dieu nous a confié, amener les âmes au ciel. Quel est notre appel? C'est aussi attendre le retour du Seigneur. Et donc nous faisons tout pour nous préparer pour cela. Nous travaillons en cela et nous nous tenons prêts. Ainsi, la lampe sera toujours allumée. Il faut que la lampe soit toujours allumée. Et autour de nous, les ténèbres fuiront. J'ai expérimenté, bien-aimé, que là où il y a la vérité, là où il y a le feu de Dieu, là où il y a la parole de Dieu, les ténèbres s'enfuient pas à pas. On n'a même pas besoin d'attaquer certains démons. Ils s'enfuient. J'ai même appris, ce n'est pas que je me réjouis de la mort de quelqu'un, Mais j'ai même appris qu'un voyant célèbre de la Normandie vient de mourir à 69 ans, tout seul chez lui. J'ai dit, la lumière chasse les ténèbres, bien-aimés. Ce voyant-là, lui tout seul, il était comme une église. Donc tout le monde allait le voir. Et quand vous lisez l'article du journal, tout le monde dit, ah, il m'a guéri, il m'a fait ceci. Mais lui-même, il est mort, il ne s'est pas ressuscité. J'ai dit, mais à 69 ans. Et bien-aimé, pendant que toi, tu es en train d'intercéder les mercredis, pendant que tu es en train d'intercéder chez toi pour la Normandie, le Seigneur est en train de chasser les ténèbres. Ce voyant-là était une institution en Normandie. Les ministres allaient le voir. Presque tous les ministres des gouvernements, presque plutôt tous les, il y a des ministres de tous les gouvernements qui sont toujours partis le voir. Les stars du showbiz ont fait sa publicité. On dit qu'il est beau, il était bon en tout. Mais devant la lumière, c'est la fuite. Voilà. Dieu est plus puissant. Et peut-être si on n'était pas là à prier, il continuerait à exercer. Mais nous prions, et les ténèbres sont chassées. Mais on ne s'en rend pas compte. Parce que tu es tout petit, tu ne t'en rends pas compte. Mais tu as une grande puissance en toi. C'est Jésus, la lumière du monde. Bien-aimés, continuons à prier. Continuons à prier. Et c'est ainsi que l'espérance continuera à vivre. La foi, la parole. Continuons à prier. La lumière sera entretenue. Que personne ne nous décourage. On veut que nous-mêmes, on appuie sur l'interrupteur. Par la peur. N'appuie pas sur l'interrupteur. Laisse la lumière allumée. Ne te freine pas. Lorsque tu dois avancer, avance. Ne te laisse pas freiner par les autres, par les intimidations. Parce qu'à cause de toi, beaucoup risquent de mourir. Beaucoup risquent de ne pas venir au Seigneur. Parce que Dieu a mis la lumière en toi pour sauver beaucoup de gens. Dieu a mis la lumière en toi pour rendre la ville agréable. Comprenons notre responsabilité, bien-aimés, et laissons le Seigneur briller en nous. Brillons. On ne nous demande pas de grandes choses. On nous demande simplement de briller. Par la prière, la repentance, la liberté, la foi, la parole, l'obéissance, brillons. Menons une vie focalisée sur l'espérance de la venue du Seigneur. Menons une vie focalisée sur l'amour, sur la foi en Dieu, que Dieu est le plus fort. Menons cette vie-là librement. Les ténèbres seront chassées. Dieu nous a donné cette responsabilité-là de chasser les ténèbres. C'est pourquoi il a dit, il faut que vous soyez sur la table afin que vous chassiez les ténèbres par votre lumière qui brille. Amen. Merci Seigneur de nous aider à agir comme des enfants de lumière, à maintenir la lumière en nous, Seigneur, à ne pas nous inquiéter de menaces environnantes, à ne pas nous inquiéter de l'apparence des forces des ténèbres, de l'apparence des oppositions, mais à nous concentrer sur la puissance de la lumière que tu as posée en nous, Seigneur. Agis, ô Éternel, dans chacun d'entre nous, que chacun réalise que tu as posé en lui la lumière qui va changer son environnement, qui va changer sa famille, qui va changer sa ville, qui va changer son pays. Ô Éternel, merci Seigneur pour ta lumière qui va continuer à briller en nous par ta grâce. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous venons prier, Seigneur, que tu nous aides à vivre en enfant de lumière, à ne pas reculer, à marcher toujours, à aller de l'avant, à pratiquer la parole, à aimer les autres, que l'amour soit notre seul objectif, que nous ne cherchons pas des intérêts terrestres, mais les intérêts célestes, que nous brillons comme des flambeaux dans cette génération corrompue, dans toute la vérité. Alléluia.